Mais c'est sans art, je sais pas comment dire ça. Bien, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous donner un exemple de cela. Ça veut dire, la volonté de Dieu qui fait exister cela, le ratson nekabel, la volonté de recevoir, à la racine, c'est un bien absolu. C'est la condition de mon existence, que je sois doué de Yetzirah. Et au point que vous avez beaucoup de midrashim, je vous donnerai un exemple, c'est à propos de Yitzhak, que quand on dit de quelqu'un qu'il est mort alors qu'il est encore vivant, on veut dire par là que le Yetzirah est mort en lui. Il n'a plus de Yetzirah, alors on l'appelle mort. Tiens, il me vient un petit ridouche, mais il faut que je vérifie, je vous le dis quand même. Vous savez qu'il y a en hébreu, pour dire mort et mortel, c'est le même mot. Il y a toute une philosophie là, mais on le verra un autre jour. Or le texte dit « Bimte me'at », c'est avec peu de gens que Jacob est descendu en Égypte. Il faudrait traduire littérairement « avec peu de mortels ».« Mitim » en hébreu, ça peut être les mortels ou les morts. Bon, j'explique rapidement quand même pourquoi c'est le même mot. C'est-à-dire notre nature est d'être mort à moins que l'on soit donné à la vie. Alors par conséquent, si je me définis par moi-même, je suis mortel, c'est-à-dire déjà mort. Si un jour Dieu préserve, je dois mourir, c'est déjà fait devant l'éternité. Je me connais par ma nature hors de Dieu qui me ressuscite à chaque instant, je suis mort, puisque mortel. Mortel, ça veut dire donné à la mort. Or, une fois que je suis arrivé à ce à quoi je suis donné, c'est fini. Mais par rapport à l'éternité, qu'est-ce que c'est que 70 ans de vie, 71 bientôt, à l'éternité, c'est rien. C'est-à-dire quelqu'un n'a jamais réfléchi à tous ceux qui ont vécu à travers les milliers d'années de l'histoire. On ne pense qu'aux contemporains. Et tous ceux qui ont vécu à travers des siècles et des millénaires, eh bien, le seul fait qu'ils étaient mortels, c'est qu'ils sont morts. Alors, oui, en hébreu, mort, c'est impitoyable comme langue. Être mortel, ça veut dire être mort à moins qu'on ressuscite. Les tzadikim sont appelés chayim, vivants, même dans la mort, dit le Midrash, et les rechaim sont appelés metim, même dans la vie. C'est clair, c'est connu. Ça. Donc, et alors, le texte dit que Jacob et ses fils sont descendus bimte me'at, avec peu de gens. Ça veut dire qu'il a fallu qu'ils tuent le Yetzirah en eux pour avoir le courage d'aller en Égypte. C'est pour relier à ce que je disais tout à l'heure. Okay. Mais en tout cas, il y a trois catégories de personnes qui sont appelées morts, même dans leur vie. Une de ces catégories, je ne vous dirai pas les autres, ça va donner des cauchemars, mais une de ces catégories, c'est celui qui n'a plus de Yetzirah. Imaginez un tzaddik qui est à un point tel d'être tzaddik. La semaine dernière, on m'a posé une question à ce sujet, le tzaddik Gamour, si je parle. Il est appelé Met, ou Hemit et Titzro. Il a tué son Yetzirah, il est appelé mort. Donc, vous avez compris le. Alors voilà pour répondre à votre question. Le Shoresh du Yetzirah, c'est le Ratzon Nekabel. Alors je voudrais un peu terminer sur cette idée. Donc il y a une contradiction suprême dans l'identité humaine. D'un côté, nous sommes condamnés à vouloir recevoir, mais nous savons que le bien, c'est vouloir donner. C'est-à-dire nous sommes condamnés à l'égoïsme, et il faut réhabiliter l'égoïsme. C'est-à-dire, si je ne m'occupe pas de moi, qui va s'occuper de moi? Si je ne m'occupe pas de moi, je me suicide. Et un anili mili, comme dirait Hillel, d'accord. Mais d'un autre côté, je sais que le bien, c'est de m'occuper d'autrui. Alors il y a toute une dialectique de l'égoïsme et de l'altruisme qu'il faut mettre en ordre. Je vous donne un exemple de l'analyse du Rav Ashlag. D'abord le premier âge, où la créature veut recevoir pour recevoir. Alors nous avons le stade de l'enfance, où on est à l'abri de la faute, parce qu'on est en apprentissage de savoir recevoir. Vous savez, l'enfant, c'est son métier d'avoir envie de manger des bonbons. Bon, il faut le protéger pour pas qu'il ait d'indigestion. Mais lui refuser d'être enfant, lui refuser un bonbon, c'est lui refuser d'être enfant. Alors il faut acheter des bonbons sans sucre pour ne pas donner à manger aux dentistes. Mais vous savez que les dentistes sont ceux qui mangent avec les dents des autres. Il n'y a pas de dentiste parmi eux, j'espère. Hein? Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, ça c'est jusqu'à la bar mitzvah. Les kabels, almenach les kabels. Alors ensuite se produit une révolution dans la conscience morale. On commence à pressentir que recevoir sans avoir mérité, c'est mal. Alors on ne veut plus recevoir. C'est là que se dessinent les crises qu'on appelle d'anorexie. On ne veut pas manger parce qu'on ne veut pas recevoir de celui qui donne. Il y a une espèce de raté de la conscience morale. Ça se soigne. Mais il faut savoir que c'est un processus naturel. C'est la conscience morale qui s'éveille. Alors les adolescents vont vous donner toutes les stratégies de réponse possibles et imaginables pour garder la ligne. Mais en réalité, c'est parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de prendre si on n'a pas mérité. Alors, je vais vous dire comment dans les familles traditionnelles juives, quand il y a des risques d'anorexie, on s'y prend pour les soigner. L'enfant anorexique ne veut pas manger chez ses parents. Alors on l'envoie chez la cousine. Chez la cousine, il mangera. Parce que ce n'est pas elle qui est censée donner. C'est la mère. Alors c'est le goût de la viande de la mère qui est amère. Et alors il y a un refus de recevoir de celui qui donne, probablement parce qu'il y a une manière de donner qui était inefficace. Bon, je referme la parenthèse. Enfin, on va chez la cousine, chez la tante, chez la grand-mère. Comme il n'y a plus de cousine, il n'y a plus de tante, il n'y a plus de grand-mère, mais des médecins. Maintenant, pour revenir au deuxième stade, là vous avez la crise mystique de l'adolescence. Recevoir, c'est mal. Le bien, c'est donner. Alors vous avez ces altruismes pour altruisme, de l'altruisme gratuit, je donne et je ne fais que donner, donner pour donner. Comment, tu ne reçois pas? Et en général, c'est un moment très très vulnérable. Dans ces crises de l'adolescence, c'est des crises mystiques où on se prend pour Dieu qui fait que donner. Alors bien sûr, c'est un secret que l'adolescent est seul à garder avec lui-même. Surtout, il ne faut pas que les autres savent, ils n'y comprennent rien, ils vont me prendre pour un fou. Mais je suis celui qui donne et qui fait que donner, je ne reçois pas. Comment tu ne reçois pas? Tu ne manges pas? Tu ne respires pas? Alors en général, ça passe assez vite. Et on arrive au stade de la prématurité. Pas la prématurité, la prématurité. C'est que je vais et donner et recevoir. Mais ça va être dans un ordre de la religion naturelle. Je donne afin de recevoir. Je donne ma vertu pour avoir le paradis. C'est la religion naturelle. Les latins le formulaient comme cela, do ut das. C'est pas l'allemand. Do ut das, c'est du latin, c'est-à-dire je donne afin que tu donnes. Alors, la formule est la suivante. Je donne à Dieu ma vertu, les mitzvot, afin qu'il me donne un fauteuil au paradis. Ça, c'est le stade de la religion intermédiaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité de la sagesse, qui est recevoir en vue de donner, et pas donner en vue de recevoir. Ça, c'est la formule de la Torah. Recevoir, alors je suis au service du Créateur qui donne, mais en vue de donner, je suis au service du Créateur qui donne. Alors les deux tendances sont dans leur ordre normal, et il y a le bonheur d'être. J'ai le droit de recevoir puisque c'est en vue de donner. Et je désire recevoir le plus possible pour donner le plus possible. Tous les autres stades sont des stades aberrants. Dans les autres stades, la conscience est malade. Parce que recevoir et que recevoir, on est gêné. Donner et que donner, on est fou. Mais c'est à la fin. À la fin, celui qui donne plus que la dîme, c'est qu'il est fou. Il y a trois diagnostics de la folie. Dans la Gemara, il y en a deux qui me reviennent. Il y a celui qui donne plus que le maaser, c'est qu'il est fou. Et puis, il a le droit de faire des cadeaux. Mais il ne doit pas considérer que c'est son maaser privé. Le mien, c'est un cinquième, mais c'est pas un dixième. Okay. Celui qui... Ah oui, le deuxième récit, le deuxième critère, celui qui aime se balader dans les cimetières la nuit. C'est un signe de folie. C'est très répandu chez les gens plus riches. Et puis, le troisième, c'est celui qui va dehors quand il fait froid, nu. Alors, c'est les trois critères de diagnostic de la folie pour le Talmud. Mais le premier est très intéressant. Celui qui donne plus que ce qu'il a à donner. Je donne un exemple. Vous avez toutes ces scènes dans la littérature où des gens, pris d'ivresse, deviennent d'une largesse et ils donnent tout ce qu'ils ont dans leur poche et dans leur portefeuille. Et quand ils rentrent à la maison, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus rien parce qu'ils avaient un altruisme débordant après l'ivresse, pendant l'ivresse. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre d'expérience. Donc, alors, je referme cette parenthèse. Voilà, la racine du Yetzer Hara, c'est la motivation du Yetzer Tov. Dieu m'a fait capacité de recevoir parce qu'il veut me donner. Donc la racine de ma capacité de recevoir, c'est son désir de donner. La racine du mal, c'est un bien absolu. À la racine, en haut. Quand ça arrive en bas, du côté de celui qui reçoit, c'est mal. Peut-être que il faudrait formuler là. Le Talmud dit En ra yored min hashamayim. Il n'y a pas de mal qui descende du ciel. C'est la manière dont celui qui reçoit qui fait que c'est mal ou bien. Le secret de la Torah, c'est la notion de mérite. Si ce que j'ai à recevoir, je le mérite, c'est bien. Si je ne le mérite pas, c'est mal. Et je referme cette parenthèse parce que je m'aperçois que le temps avance et qu'on n'a pas commencé le cours. Bon, alors je lis le verset. Vayi kol haaret safa echat udvari machadim. Alors, voilà ce que la Torah commence à nous dire. Vayi, et il arriva kol haaret, que toute la terre safa echat était langue une. Suivez bien, Safa, c'est la langue, dans le sens du langage. Pas la chaune, Safa. Et toute la terre parlait la même langue. Mais suivez bien, parce que c'est une exégèse un peu fine. Udvari Mahadim. Et alors là, ces deux mots-là, les traducteurs ne s'en sortent jamais. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a un texte en français là ?
Oui, et des paroles sont là.
Voilà. Oui, c'est un pléonasme majestueux. Toute la terre parlait la même langue et parlait des paroles semblables. Alors, les commentateurs de cette lecture s'ingénient à dire que non seulement la langue était la même, mais les mots avaient le même sens. C'est évident que la Torah ne dépense pas des lettres pour répéter des choses semblables. Je vous lis un commentaire du Talmud en vous donnant la référence dans le traité de Megillah du Talmud de Jérusalem. C'est le premier chapitre, la Halakha 9. Dans le Talmud de Jérusalem, les chapitres sont divisés en Halakha. Je vous lis. Safa Echad, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Il y a un double enseignement de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yochanan. Chadamar, l'un a enseigné, Shayum Davrim Beshivim Lashon. Il parlait les 70 langues. Je reviendrai après sur la définition des détails. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset ? Toute la terre était langue unique et, je traduirai tout de suite, dialecte particulier. Dvarim ahadim. Et parole particulière, spécifique. L'idée est que l'humanité disposait, premièrement, d'une langue commune à tous les peuples et en même temps, chaque peuple avait la sienne. Voilà ce que dit le verset. Et ce n'est pas du tout ce pléonasme qu'on a lu tout à l'heure en français. Alors, Chadamar, Shayum Davrim, Bishayum Lashon, Vechadamar, Shayum Davrim, Bilshon, Yechido, Shalom, et l'autre a enseigné qu'il parlait la langue de l'unique du monde, Lashon HaKodesh, la langue qui parle la sainteté. Alors, la situation est très simple. Voilà quel était l'état de l'humanité. Une langue commune à tous et des dialectes particuliers à chaque peuple. Alors là, c'est la description de l'universel absolu. J'ai deux remarques à étudier rapidement. Pourquoi c'est au niveau du langage que l'universel est désigné, et quelle est la définition de cet universel? Il y a en français deux termes différents, universel et universaliste. Je vais donner un exemple, parce que c'est un exemple qui va être maintenant beaucoup étudié, si vraiment la rencontre entre le Vatican et Israël se dessine. On a un énorme règlement de compte à avoir sur ce problème. Le christianisme s'est prétendu être une religion universelle. Et ça veut dire quoi? C'est une religion qui doit concerner tout l'universel humain. La formule que je pousse à la limite, hors de l'Église, point de salut. Alors, que sont les autres? Ce sont des infidèles, des infidèles et des hérétiques. Et infidèle, ça a généré au Moyen-Âge le terme de perfide quand on parlait des Juifs. Ça veut dire qu'ils sont en dehors de la foi vraiment, perfides. Je ne sais pas si à l'origine il voulait dire perfide dans le sens que ça a dans la langue. Il voulait dire.
C'est perfides, en dehors de la foi.
C'est ça, c'est ce que je veux dire. Mais il voulait dire infidèle. Bon, il y a chez les chrétiens, dans le cas des chrétiens, des degrés. Il y a les hérétiques, il y a les infidèles, bon, il y a les juifs. En tout cas, le christianisme, et il n'est pas le seul, l'islam est dans ce cas, se présente comme une religion universelle qui est censée concerner tout le monde. Il y a donc un parti pris impérialiste. C'est la définition de l'impérialisme. C'est ma manière d'être qui doit s'imposer à tous. C'est pour tous, mais c'est ma manière. Et ça, c'est le contraire de l'universalisme vrai. Universaliste renvoie à une toute autre attitude. Ça veut dire que c'est une doctrine où il y a place pour tous comme ils sont, à certaines conditions communes. Mais il y a place pour tous comme ils sont. Est-ce que c'est suffisamment clair la différence? Alors le judaïsme est universaliste, il n'est pas universel. La grande erreur des théoriciens juifs de la diaspora, c'est de se prendre pour une religion universelle. Alors on arrive à des incongruités. Combien y a de juifs en France? Disons 700 000. Bon, je crois pas qu'il y ait plus que 500 000, mais c'est pas grave. 500 000 à 700 000, 800 000, c'est rien à côté du nombre de millions de Français. Combien il y a de millions de Français?
55.
Alors pour les juifs français, qui supposent que le judaïsme est une religion universelle, la preuve c'est qu'on peut être français, il y a près de 55 millions de Français qui sont aberrants puisqu'ils ne sont pas juifs. Je ne sais pas si vous réalisez où on arrive. Ils ne se rendent pas compte. En fait, le judaïsme, c'est la religion d'Israël et elle est universaliste. Il y a une place pour les Français, même chrétiens. C'est normal d'être Français chrétien. C'est normal pour un goy d'être goy. Alors que si un juif se prend pour une religion universelle, c'est pas normal d'être aberrant. Alors vous avez les juifs errants et les juifs aberrants. Ils ont. Il y a un raté de la pensée juive en diaspora qui se prend pour une religion universelle. Et chaque fois que je parle comme ça au rabbin français, il me regarde d'un air ahuri. Il dit, mais t'es dangereux. Vous avez compris un peu ce qui se passe là. Il y a une différence universelle et universaliste. Alors que l'universalisme dont parle ce verset, c'est un universalisme cohérent. L'humanité dispose de la même langue, donc tous les hommes sont frères. On va se demander pourquoi au niveau de la langue, pourquoi c'est important au niveau de la langue. Mais chacun est lui-même. Il n'y a pas d'uniformité dans cette universalité. Chaque visage est un génie pour lui-même. C'est un génie défiguré, mais c'est un génie pour lui-même. Ce qui est arrivé, c'est que la langue unique a disparu. Parce qu'il y a eu révolte contre le principe d'unité à tous les niveaux. La langue unique a disparu. Il n'est resté que les langages particuliers. Alors les hommes ne se sont plus compris. Ça, c'est le schéma de l'enseignement de la Bible. Et pas l'inverse. C'est pas que l'humanité parlait tous la même langue, uniformité, et puis magiquement, chacun s'est mis à parler une langue différente, alors ils ne se sont pas compris. Cette manière de lire le récit de la Bible, c'est pas comme ça que c'est écrit d'ailleurs, c'est une lecture magique. Dieu n'est pas un magicien. C'est pas comme ça qu'il travaille. Hein? Imaginez la scène. Nous parlons tous la même langue, et subitement, chacun va parler une langue différente. Et j'ai entendu des sermons de rabbins où on parlait comme ça. Quand ils construisaient la tour de Babel, alors l'un disait « passe-moi le marteau » en hongrois, et l'autre répondait « j'ai pas de clou » en italien. Alors ils se comprenaient plus. Mais pour donner un exemple facile à comprendre, celui qui nous est le plus familier, c'est la langue française. La France a construit son unité de langage autour du dialecte de l'île de France, le français. C'était une toute petite province française qui parlait comme ça. Et l'Académie française a imposé, par impérialisme des je ne sais pas comment on les appelle, les îles de France, comment on les appelle, Michelin ?
Les Franciliens. Hein ?
Les Franciliens. Ils ont imposé leur dialecte à tous les habitants du territoire de la France. Et alors, c'est une langue littéraire qui, par rapport aux autres français, est une langue artificielle. Un Occitan qui parle français sent que ce n'est pas sa langue. Et il le dit, d'ailleurs. Un Breton, ce n'est pas sa langue. Un Lorrain, un Alsacien, un Auvergnat, un Juif, Colchéquen. Mais il y a que les Franciliens, comme vous dites, qui sont à l'aise. C'est une très belle langue, d'ailleurs. Mais elle est très artificielle par rapport au patois de chaque canton de France, qui sont les langues de la France. Vous voyez, Tsafa Echad, le français, Dvarim Achadim, les patois. Alors imaginez que le français disparaisse. Il ne resterait que les patois. Alors vous imaginez, De Gaulle se retourne dans sa tombe. Et vous direz, vive le Québec libre. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est de ça qu'il est parlé. Alors, je veux aborder tout de suite le deuxième point. Pourquoi c'est important que la Torah nous dise qu'il y a unité de l'homme au niveau du langage ? Eh bien, je vous donne une autre référence à laquelle je reviendrai plus en arrière. C'est le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse dans la Parasha de Bereshit. Lorsque la Torah décrit la formation de l'homme, elle le définit comme étant Nefesh Chaya. Alors vous allez prendre ce verset. Prenez donc chapitre 2, verset 7. Alors, je lis, on ne va pas étudier tout le verset, c'est plein d'enseignements, mais c'est pour arriver à ce que dit Rashi sur l'expression Nefesh Chaya. Ceux qui ne sont pas encore suffisamment habiles en hébreu, et moi je vous conseillerais, comme on a besoin d'échafaudage pour construire une maison, apprendre à l'œil des échafaudages, de suivre sur un livre bilingue, hébreu et français. Comme ça, en lisant français, vous savez grosso modo de quoi il peut s'agir, et vous suivez l'étude sur l'hébreu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vaïtzer Hachem Elohim, et Hachem Dieu, Vaïtzer forma, regardez bien le mot Vaïtzer, il y a deux lignes, vous y êtes ? Donc, forma, état Adam, l'homme, afar mina Adama, poussière prise de la terre, vaï parbe apav, il insuffla dans son visage, littéralement dans ses narines, mais c'est à païm, c'est le visage. Nishmatraïm, une âme de vie, ou l'âme de vie. Je préfère traduire une âme de vie. Une âme vivante. Vaïhi Adam le Nefesh Chaya. Et l'homme devint. Alors, je vous traduis les deux derniers mots du verset, les Nefesh Chaya. Nefesh, vos traducteurs habituels vous traduisent par âme en général. C'est une traduction qui n'est pas exact. Il y a toute une théologie, anthropologie, c'est comme on dit, toute une doctrine de ce que c'est que l'âme humaine. Pour la tradition, il y a cinq niveaux dans l'âme. Nefesh, le niveau inférieur, ce qui fait qu'un corps est animé. Et vous voyez d'où vient l'erreur, parce que le mot de âme traduit le latin animus, esprit, ou anima, âme, qui fait que le corps est animé. Alors ça, c'est le nefesh. Vous voyez, Adam, le nefesh raya, c'est la partie inférieure de ce que nous appelons, pour dire la vie intérieure, le psychisme, mais vraiment la partie intérieure, celle qui fait que nos fonctions vitales, biologiques, fonctionnent. Ça, c'est le nefesh. Ce qui fait que l'homme devient le résultat d'une synthèse entre un corps et un âme, c'est-à-dire une personne. Ça, c'est Nefesh Chaya. Je vous ai une parenthèse linguistique. Le mot de Nefesh, on y voit à plusieurs sens. Nefesh, ça veut dire d'abord le souffle. C'est le souffle de l'expiration. Le souffle de l'inspiration, c'est Ruach. Ruach, c'est inspiration. Ça va donner en français le mot de esprit. Et Nefesh, c'est le souffle expiré. C'est le souffle où s'exprime l'identité de la personne en la faisant parler. Et c'est pourquoi va s'attacher au terme de Nefesh la notion d'être doué de parole. Retenez bien cette définition. Ensuite, le mot de Nefesh désigne la personne dans la responsabilité morale. La Torah pour dire lorsqu'il arrivera qu'un homme aura fait une faute, et la Torah emploie le terme de Nefesh. Nefesh qui techeta, lorsque le Nefesh aura fauté. Et le corps n'est pas soumis à la responsabilité morale, ou il fonctionne bien, ou il fonctionne mal. C'est un problème pour biologistes et médecins, c'est pas un problème pour moralistes. L'âme n'est pas soumise à la responsabilité morale, elle est pure, elle reste pure. C'est la personne qui résulte de l'union entre l'âme et le corps qui est soumise au problème moral et donc à la notion de responsabilité. C'est le nefesh. Et par conséquent, ça veut dire d'abord le souffle. Et on a, ce sens de nefesh, souffle, est attesté dans toutes les langues sémitiques. Je ne donnerai pas d'exemple, mais enfin, vous pouvez l'étudier, que ce soit en phénicien, que ce soit en araméen, que ce soit en arabe. Et puis, ensuite, nefesh, c'est... Ça veut dire donc le souffle, ensuite ça veut dire la personne, et ensuite ça veut dire le cadavre, ce qui reste de la personne lorsque la personne s'en est allée. Nefesh, c'est un cadavre. Et puis Nefesh, ça veut dire la tombe, l'endroit qu'occupait ce qu'était la personne lorsqu'elle était personne. Et ce qui reste est une tombe. Et ensuite Nefesh, ça veut dire la pierre tombale. Vous voyez la famille de mots. Alors ici, nous sommes occupés ce que l'homme est devenu lorsque son corps a été animé par l'âme de vie, Nefesh Chaya, personne vivante. Alors notez la traduction, il est devenu une personne vivante. On revient un peu en arrière au chapitre 26, au chapitre 1, verset 26 du premier chapitre, si je me souviens bien, c'est 26. Vous prenez d'abord le verset 24, Kavdalet. Bon, alors je lis, Vayomer Elohim, et Dieu dit, ici la Torah va nous formuler le projet du Créateur pour le sixième jour. Et Dieu dit, Totseharet Nefesh Chaya Lemina, littéralement, que la terre produise, sorte d'elle-même, Nefesh Chaya Lemina, personne vivante suivant son espèce. Suivez bien attentivement. Vous voyez quel est le projet Nefesh Chaya. Ce que le sixième jour doit contribuer à la création, c'est de produire une créature qui soit personne vivante. Behema, la bête, Varemes, les reptiles, Behaitoaret et les bêtes sauvages, les Mina, selon leur espèce. Il y a donc dans ce projet Nefesh Chaya, Behema, Remes, Behaitoaret. Or, qu'est-ce qu'il y a eu, comme on dit en français ? Qu'y a-t-il eu ? Qu'y a-t-il eu dans la réalisation ? Verset 25, le verset suivant. Vayas Elohim et Chayat Haaret, et Dieu fit les bêtes des champs, c'est les bêtes sauvages, les bêtes de la terre, et ça correspond à Chayto Haaret. Veta Behema, Vet Kol Remes Adama, et tous les reptiles, c'est Remes, les minéou, selon leur espèce. Vayar Elohim Kito, et Dieu vit que c'était bien. Qu'est-ce qui manque ? Nefesh Chaya. Alors vous voyez, il y a un projet, mais dans la réalisation du projet le sixième jour, il y a un décalage. Il y a une partie du projet, la partie essentielle, la personne vivante, dans les différents termes que j'ai employés tout à l'heure, le terme le plus important, c'est doué de responsabilité morale, de quelqu'un qui fonctionne comme quelqu'un, comme sujet de la moralité. La terre n'a pas réussi à sortir ça d'elle-même. Je vois ici une petite parenthèse sur une grande querelle qu'il y a entre les évolutionnistes et la Bible. Les évolutionnistes nous montrent l'homme comme dernier stade d'une évolution qui mène l'animal, en fin de compte, à l'homme. Que ce soit par le mutationnisme, par le darwinisme, lamarckisme, tout ce que vous voudrez. Mais en fin de compte, l'homme serait un animal devenu homme. Donc, en fait, ça veut dire que la Terre a d'abord produit des microbes, je ne sais pas moi, des abîmes, des amibes. Et puis des amibes qui se sont abîmés, ils se sont modifiés, et c'est devenu en fin de compte un homme. Et après les évolutionnistes, nous sommes en assemblée d'amibes modifiées, en train de réfléchir sur le sort des abîmes. Eh bien, la Torah est d'accord avec cette doctrine pour toutes les créatures, sauf pour l'homme. Vous voyez, regardez bien, verset 24, que la terre sorte, produise toute une série d'êtres vivants, y compris l'homme. Eh bien, la terre n'a pas réussi. Elle a réussi à sortir les animaux les plus sophistiqués, y compris les évolutionnistes, mais elle n'a pas réussi à sortir l'homme. Je vous dis ça, je vous dis pourquoi, c'est un souvenir de mes études. Quand j'ai étudié l'ethnologie, j'avais un professeur très brillant d'ethnologie, d'anthropologie, qui nous faisait étudier les doctrines évolutionnistes. Et je me rappelle, c'était la dernière année de sa carrière, du professeur Rabot. C'était un grand bonhomme de l'université. Vous voyez où c'est le Trocadéro ? C'est là-bas que je faisais les cours. Alors je me revois, mon cher monsieur Rabot, Dieu et son âme, qui, tout décrépit, m'ont dit Courbet, etc., qui se baladait devant l'estrade. C'était sa dernière phrase de son cours magistral. « Eh bien, mes chers amis, nous ne sommes que des animaux modifiés. » Et il parlait vraiment comme si c'était vrai pour lui. Alors, je me suis dit, bon, même pour lui, c'est pas vrai, mais il le sait pas. Alors, quand un savant vous dit que nous sommes des animaux modifiés, et quand un juif pris de fureur anti-goy traite les goyim d'animaux, mais on ne se rend pas compte qu'ils disent la même chose. Tellement quand les savants parlent, on les laisse parler. Non, en fait, vous voyez ce que dit la Torah, c'est très sympa. La nature n'a pas réussi à faire l'homme. Elle est arrivée à faire que les animaux les plus sophistiqués. Mais Veshraya, ça manque. Alors, suivez verset 26. Vayomer Elohim, alors Dieu dit, c'est moi qui ajoute alors, Naase Adam et Tsamenu. Je vais faire l'homme comme je veux le faire. Ça veut dire, puisque la terre n'est pas arrivée, comme vous dites, vous, soi-disant les évolutionnistes, alors je vais le faire, moi. Vous voyez la suite du récit, Kinotenu, Beyodo Bigatayam. Et alors, il faut attendre notre verset 7 du chapitre 2 que vous allez le reprendre, pour que le terme de Nefesh Raya apparaisse. Et quand Dieu a formé l'homme, alors il y a eu Nefesh Raya dans le monde. Vous voyez, la terre n'a réussi qu'à donner le corps de l'homme, mais il fallait que ce corps soit animé pour devenir un homme. Je crois que le récit est suffisamment clair. Tant que le corps n'est pas animé par la Nishmat Raïm, Talmudique, c'est un golem, une sorte d'être biologique sans âme. Je vois que le seul exemple clair que nous ayons du golem, c'est le somnambule. Ça fonctionne comme si c'était un homme, mais ça fonctionne hors de la présence de celui que cet homme est censé être. Vous savez ce que c'est un somnambule ? Eh bien, c'est un golem. Et alors nous avons le Nefesh Raya du projet qui n'apparaît qu'avec l'homme. Alors reprenez le verset 7 du chapitre 2. Et Rashi va intervenir. Alors je lis. Av Behema Vechaya, Nikreu Nefesh. Rashi va mettre en évidence que même les animaux sont appelés Nefesh, mais pas Nefesh Chaya. L'image que j'emploierais, c'est que l'être de nature est une sorte de. J'ai l'habitude d'employer une image mathématique. Vous savez que c'est une asymptote. Vous avez une coordonnée, et puis il y a une courbe qui tend à rejoindre la coordonnée, mais qui n'y arrive jamais, qui est asymptote. Alors tout se passe comme si l'être de nature est asymptote à l'identité humaine, mais n'arrive jamais à la coordonner l'homme. Et alors Dieu intervient et fait partir la courbe de l'homme à partir du niveau parallèle du sommet de l'asymptote animale. C'est pourquoi il y a analogie au point de départ de l'histoire de l'homme avec le point d'arrivée de l'histoire animale. Mais il y a une solution de continuité. Ce n'est pas un animal qui est devenu un homme. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. L'animal est un être vivant qui n'a pas réussi à être un homme. Et ce n'est pas que pas l'inverse. Alors ça vous explique pourquoi, dans l'embryologie, les stades embryonnaires du fœtus humain passent d'abord par ces différents stades, mais vont au-delà. Alors que l'embryon de l'animal s'arrête là où il s'arrête. Je le dirais un peu sous forme poétique, l'animal est un homme qui n'a pas eu le courage de devenir un homme. Alors il est resté animal. Il était bête. Et vous voyez que le récit de la Bible n'est ni fixiste, ni évolutionniste. C'est tout à fait autre chose. Alors Rashi, je reprends à partir de Rashi. Rashi nous dit, mais même la bête et l'animal et la bête sauvage sont appelés nefesh, nefesh chaya, avzo chez la dame. Mais ce qu'on veut nous dire ici, c'est que le nefesh de l'homme, chaya chez bekulam, est la plus vivante de toutes. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est vivante? Chez netosaf bo da'at vedibur, parce qu'elle a en plus la connaissance et la parole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire nefesh chaya? Ça veut dire une personne vivante, et ça veut dire quoi? Ça veut dire douée de parole. Alors vous voyez que pour la Bible, le caractère spécifique de l'homme, c'est pas d'être l'être pensant, c'est d'être l'être parlant. Il y a chez l'animal des conduites asymptotes au langage, il y a des signaux, des systèmes de signes que par lesquels l'animal communique au niveau naturel, mais qui n'ont rien à voir avec le langage. Il y a un mystère du langage. Vous verrez par la suite dans les textes que c'est le privilège d'Israël d'avoir la langue, d'avoir gardé cette langue dont on a parlé le verset 1 du chapitre 11, la langue qui peut parler des choses de la sainteté, qu'on appelle la Shona Kodesh. Je n'ai pas encore dit que le premier homme parlait l'hébreu, mais ça, on y arrivera un jour. Okay? Quel hébreu il parlait? L'hébreu des prophètes. Parce qu'il y a l'hébreu de l'Ulpan et il y a l'hébreu de la Bible. Et c'est la même langue. Mais une, c'est pour exprimer la vérité, et l'autre, c'est un langage de communication des consciences. Passe-moi le sel, verse-moi de l'eau, ça c'est communication des consciences. Et puis, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est la Shona Kodesh. Et alors, on verra qu'est-ce que ça veut dire que la lignée hébraïque a gardé cette langue unique, indépendamment de son dialecte propre qui était l'araméen. Ça nous apprenons par la suite. Arami Obedabi, l'araméen est resté notre langue familiale, notre langue folklorique, une sorte de yiddish que tous les Hébreux parlaient. Mais l'hébreu, c'est la langue dont il est parlé. Et alors, donc il est important de comprendre que, ce sera la dernière analyse que nous aurons maintenant, ce soir, le caractère spécifique de l'homme pour la Torah, c'est d'être capable de parole. Alors si la Torah nous dit que les hommes avaient la même langue, ça voulait dire vraiment que l'universel était absolu, que l'universalité de l'humanité était absolue. Vous avez remarqué ça, ceux qui se tiennent un peu au courant de la littérature générale, la fascination qu'exercent les problèmes de langage et de communication chez les intellectuels contemporains. C'est un problème de civilisation de notre temps, la communication, et en particulier la communication entre les générations. C'est ce qui est indiqué par le dernier verset de la prophétie. Et il ramènera le cœur des pères sur le cœur des fils, et le cœur des fils vers le cœur des pères. Effectivement, il est bien évident que le grand problème contemporain, c'est la communication, et surtout entre les pères et les fils. Et vous remarquez à quel point c'est le problème qui obsède les psychologues et les linguistes contemporains. Et parmi les psychologues et les linguistes contemporains, la proportion de juifs dépasse celle des prix Nobel. En tout cas, pour revenir aux les prix Nobel juifs, je veux dire. Il y a un phénomène là qui est à signaler. Et alors, on arrive donc au fait que et je conclurai là, la caractéristique, comme disait le logicien, le caractère spécifique de l'homme, pour la Torah, c'est beaucoup plus d'être le vivant parlant que le vivant pensant. Les deux formules sont connues par les rabbins. Et on sait qu'au Moyen-Âge, il y a une controverse, laquelle il faut garder. Les philosophes ont préféré le vivant pensant. Descartes, par exemple, disait « res cogitans »,« cogitans »,« animal raisonnable », que « chose pensante ». Or, l'homme n'est ni un animal et il n'est pas raisonnable. Mais les rabbins ont préféré à l'expression « haya maskil », qu'ils connaissent aussi, le vivant doué d'intelligence, ils ont préféré « haya mdaber », le vivant parlant. Et je voudrais terminer pour expliquer pourquoi c'est important ce choix. Je crois que dans la culture moderne, on a déjà suffisamment d'éléments pour mieux comprendre. On sait maintenant que la pensée peut être impersonnelle. Et il me suffit de vous signaler ce qui se passe dans le monde des ordinateurs. La pensée peut être impersonnelle. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est le rapport entre deux notions. Et penser, ça veut dire peser ensemble, pondérer. C'est le mishkal en hébreu, sechel, sont deux racines très proches. Je pèse ensemble deux notions, je pense le rapport entre deux notions. Ça, c'est la pensée. Alors, la pensée peut être impersonnelle. Je peux mettre la pensée en cage. Alors que la parole, au contraire, exprime la présence de quelqu'un. La parole exprime la volonté de quelqu'un, alors que la pensée n'exprime que le fonctionnement de quelqu'un, et la pensée peut être impersonnelle. Oui, l'importance de cette remarque, c'est que le fondement de la morale dépend de cette option de définition. Dire de l'homme qu'il est le vivant pensant, c'est qu'il n'y a pas de fondement à la spécificité de chaque sujet, à la dignité de chaque personne comme sujet singulier. Parce qu'il s'agit d'un fonctionnement impersonnel. Il y a sa pensée, sa vie, et puis il y a une illusion, le quelqu'un que je crois être. Le quelqu'un n'a pas de fondement dans une philosophie où la caractéristique de l'homme, c'est la pensée. Et c'est le drame de l'éthique de la civilisation occidentale qui s'est substituée à la morale. Dans la civilisation occidentale, on est féru d'éthique. Alors qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est des conventions de l'égalité, des corporations, des métiers. Les médecins ont une éthique, ils sont des conventions légales de médecine. C'est pas la morale. Les juristes ont une éthique, ils sont des conventions légales de juristes, etc. La morale est autre chose. Et c'est un grand débat chez les juristes contemporains. Ça veut dire qu'il y a tout un mouvement dont je me suis occupé, de juristes français, des goïms, qui vont fonder une communauté noachide pour se grouper autour des mitzvot de la loi de Noé, parce qu'ils sont déçus de l'éthique telle qu'elle est comprise dans les corps constitués. Je crois que les médecins suivront par la suite. Yeah.